Le journal d'Yvine Bringer.
Vive tension à Faradjé après les accrochages entre habitants et militaires des FRDC samedi. À la base, une tentative de réconciliation entre habitants de ce territoire de la province orientale et militaires qui s'est transformée en bagarre. Bientôt, une assistance pour près de 600 familles victimes des inondations à Bumba dans la province de l'Équateur. Ce geste est de l'OMS, UNICEF, SNUD, le HCR et Caritas. Euphor continue à plier bagages 10 jours après l'expiration de son mandat. Nous irons à la base de cette force à l'aéroport de Ndolo, ici même à Kinshasa, pour nous en rendre compte. Bonjour à tous. La tension persiste à Faradjé, territoire situé au nord-ouest du district du Haut-Ouélé en province orientale. Des échauffourées ont opposé samedi dernier la population de cette cité congolaise frontalière avec le Soudan aux militaires du régiment FRDC chargé de protéger le parc de la Garamba. Un témoin évoque un bilan de 3 personnes blessées et plusieurs maisons incendiées. Le point avec Willy Kalombo.
Selon le responsable d'une radio communautaire locale, tout est parti d'une tentative de réconciliation des deux parties en conflit organisée par les autorités politico-administratives locales. Une initiative rejetée par les habitants des Faradjé qui ont immédiatement engagé des bagarres avec les militaires présents au lieu prévu pour les pourparlers. Plusieurs témoins parlent des 3 blessés graves, 2 militaires et 1 civil. Les mêmes témoins accusent les militaires d'avoir incendié plusieurs cases par représailles. Plusieurs autres civils, notamment des femmes et des enfants, auraient gagné la forêt pour se cacher. Pour le moment, environ 30 soldats sont arrivés des Abas, cité située à 150 km de la cité des Faradjé, en vue de calmer la situation. Information que confirme le commissaire de district du Haut-Ouélé. Ce dernier indique avoir déjà émis des recommandations aux autorités de la 9e région militaire pour que les unités brassées soient déployées à Faradjé en remplacement de ceux qui sont sur place mais sans succès. Bounia, Willy Kalombo, Radio Kapi.
Nord Kivu à présent, avec cette pénurie des produits manufacturés et autres biens de première nécessité observés depuis plus de 30 jours à Masisi, c'est une des conséquences des affrontements entre les militaires non brassés fidèles à Laurent Kunda et ceux des forces armées de la RDC. Quant à la population, elle attend toujours le rétablissement du trafic sur la route de Goma, son unique source d'approvisionnement. Le point avec Sylvestre Kilolo.
Depuis quelques jours, les habitants de Masisi se plaignent d'être à court de plusieurs produits de première nécessité. C'est notamment le sel, du sucre, du savon, du pétrole. D'autres stocks comme la bière et autres rafraîchissants ont disparu et aussi du marché. Avant cette semaine, disent les habitants, les prix de ces différents produits avaient même triplé avant de les voir disparaître du marché. Pour rappel, depuis le 21 novembre, les militaires de la 81e brigade avaient coupé la route au niveau des Katalé et la pénurie des produits a commencé à s'observer. Les jours suivants, c'est plutôt des affrontements auxquels on a assisté entre les militaires de la 81e brigade, appuyés par la 83e, contre les militaires loyalistes à Sake. À présent, la situation est telle qu'aucun véhicule n'a toujours pas franchi pour aller à Masisi, tel que nous le déclarent ces usagers de la route Goma-Masisi.
Nous avons essayé le mardi, mais nos militaires loyalistes nous ont renvoyés. Jusqu'à présent, la population est là sans sel, sans sucre, sans pétrole, sans savon. La population de ces côtés-là souffre.
Contacté ce jeudi, le commandant de la 14e brigade, le colonel Rougaï, dit n'avoir jamais interdit aux commerçants d'amener des vivres dans les Masisi, mais il reconnaît avoir interdit le mouvement des véhicules transportant de l'essence. Notons que ce manque de produits manufacturés est également observé à l'ouest du territoire des Masisi. Des sources à Sake affirment que dans la journée de jeudi, 2 véhicules sans marchandises avaient été empêchés de poursuivre la route au niveau de Kingi par des troupes fidèles à Laurent Kunda. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Très peu d'enfants démobilisés préfèrent retourner à l'école et pour l'ensemble des démobilisés, la réinsertion dans la société reste difficile. C'est le bilan fait le week-end dernier à Kisangani par l'ONG internationale IRC au cours d'une conférence. Cette ONG est fin mandat dans la province orientale. Depuis 2004, IRC a été le principal partenaire de la Commission nationale de désarmement et réinsertion en matière de réintégration sociale des enfants démobilisés autrefois associés aux groupes armés. Plus de précisions avec Xavier Faraï.
Selon l'IRC, 2200 enfants, dont plus de 500 filles, ont été démobilisés des forces et groupes en province orientale depuis 2004. Pour Karine Mouzé, chargée du DDR à l'IRC, son institution a éprouvé d'énormes difficultés pour la réinsertion sociale et économique de ses enfants. Sur 2200 démobilisés, candidats à la réinsertion familiale, a-t-elle affirmé, 200 enfants seulement n'ont pas posé de problème. Pour le reste, explique-t-elle, il a fallu des séances de médiation car ces enfants étaient difficilement acceptés dans leur communauté. Celle-ci les considère comme des assassins. Autre difficulté rencontrée, le choix que doit opérer un enfant entre l'école et une activité génératrice de recettes. D'après Karine Mouinzé, 10% seulement des enfants démobilisés ont accepté de retourner à l'école, la plupart se considérant comme adultes. Les filles, quant à elles, se seraient lancées dans les activités commerciales. 90% d'entre elles meneraient une vie légère. L'IRC invite donc toutes les composantes de la communauté à faciliter la réinsertion des enfants démobilisés pour qu'ils deviennent un jour utiles à la société. Kisangani, Xavier Faraï, Radio Okapi.
7h05 minutes à Mbandaka, des agences humanitaires s'apprêtent à assister les victimes des inondations de Bumba dans la province de l'Équateur. L'OMS, l'UNICEF, le PNUD, le HCR et la Caritas sont dans cette cité pour évaluer la situation de ces sinistrés. Au moins 600 familles, soit 2000 personnes, sont sans abri depuis les dernières inondations. Selon le médecin épidémiologiste de l'OMS Équateur et coordinateur humanitaire de cette province, l'aide a été suffisamment mobilisée. Il reste cependant à régler le problème de la logistique pour les acheminer à Bumba. Docteur Tarsis Elongo, au téléphone de Jean-Claude Toubacamanga.
La semaine qui commence, on va les ramener l'équipe de réinsertion. À part ça, il y a l'équipe médicaments, il y a les vivres, il y a l'équipe scolaire et l'équipe enseignante parce qu'il y a des écoles qui sont retrouvées aussi submergées. Il y a aussi le produit de traitement pour la purification de l'eau ainsi que de bidons comme contenants.
Pourquoi vous avez pris beaucoup de temps pour leur apporter cette aide?
Prendre beaucoup de temps, c'est trop fort parce que nous avons reçu l'information. On a reçu l'information, je peux dire, vers la fin du mois de novembre. Et déjà, on a fait la première mission le dimanche, faire un état des lieux. Maintenant, on s'est lancé dans ce processus de mobilisation. Mais il y a le problème logistique qui est réel, parce que toutes ces cargaisons, il faut les déplacer par voie aérienne. Et là, la Monuque nous a déjà donné la promesse qu'au courant de la semaine, on va commencer à amener toutes ces ressources vers Bumba. À partir de Mbandaka, ce qu'on a au niveau de Mbandaka, et à partir de Kinshasa, ce qu'on a à Kinshasa.
Le médecin épidémiologiste de l'OMS Équateur annonce aussi l'envoi dès ce mardi par bateau à partir de Kinshasa d'une cargaison de vivres dont du PAM. Le bateau pourrait accoster à Bumba à la fin de cette semaine, a-t-il déclaré. Le Monde, vous le savez, a célébré hier dimanche 10 décembre le 58e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Thème retenu pour cette année, la lutte contre la pauvreté, une obligation, non une charité. À Kinshasa, le ministère des Droits humains et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme ont organisé une conférence à l'intention des activistes des droits de l'homme et du gouvernement. Pour Madame la ministre des Droits humains, la protection des droits des personnes, notamment les droits sociaux et économiques, passe également par la construction de nouvelles prisons où sera gardée toute personne qui ne respectera pas la loi. Madeleine Kalala est au micro de Rebecca Ebalenguma.
J'ai souvent écrit, j'ai demandé qu'on désengorge les prisons. C'est vrai, le chef de l'État a dit que les portes des prisons étaient ouvertes, mais faudrait-il encore que l'on puisse maintenir ces gens dans les prisons, que ces personnes ne s'évadent pas? Nous savons qu'aujourd'hui, pratiquement chaque mois, on enregistre des évasions dans les prisons à travers la République. Moi, je ne parle plus aujourd'hui de la réhabilitation des prisons. Je parle de la construction de nouvelles prisons. La lutte contre l'impunité, c'est l'impunité qui nous a amenés là où nous sommes. Si aujourd'hui la santé, l'éducation payent le prix, mais c'est le prix de l'impunité. Parce que les dirigeants ont fait ce qu'ils voulaient et on les a laissés faire.
Et puis ce dossier, suspension du secrétaire général de l'Assemblée nationale par le président du bureau provisoire de cette institution, une affaire de 38 millions de francs congolais est à la base de la suspension de M. Constantin Chiswaka Kabanda. C'est le 9 novembre que l'Assemblée nationale avait réceptionné cette somme qui était destinée à la paie des membres du bureau et des membres du cabinet. Le président intérimaire de cette institution instruira le secrétaire général de ne pas autoriser cette paie. Raison avancée, la confusion qui était de mise avec l'existence de deux bureaux de l'organe législatif. Le 15 novembre, le secrétaire général autorise quand même la paie. Le lendemain, il est suspendu par Beza Toubi, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Monsieur Constantin Chiswaka Kabanda se dit victime d'une injustice. Il justifie sa décision de payer par le fait que cet argent était destiné à la paie des membres du bureau et des membres du cabinet de l'Assemblée nationale et non au fonctionnement de cette institution. Écoutons M. Tshiswaka, joint au téléphone par Guy Maté.
Je suis suspendu, je considère cette suspension comme abusive en principe parce que on me suspend au motif d'indiscipline et de désobéissance pour avoir autorisé le paiement des rémunérations du mois d'octobre dues au personnel du bureau sortant. La paie est automatique. En principe, quand l'argent sort du budget, l'imputation est donnée à chaque crédit pour dire les crédits destinés à ceci. Et le ministre du budget nous avait écrit pour confirmer que cet argent concernait la paie du personnel du bureau d'appoint. Bon, le président avait demandé qu'on sursoie à la dépense parce qu'il y avait des besoins au niveau de l'Assemblée auxquels on devait faire face. Mais cet argent n'était pas l'argent de fonctionnement, c'est l'argent de rémunération. Et comme le ministre du budget avait confirmé et que le personnel réclamait son argent, moi j'étais dans l'obligation de dire au chef de division de finances de payer l'argent à qui il était destiné.
Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, pour sa part, confirme la suspension. Benza Toubi accuse le secrétaire général d'avoir autorisé la paie des membres d'un bureau qui n'existe plus juridiquement. Le directeur de cabinet du président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale reproche également au secrétaire général son insubordination et son refus d'ordre. Céleste Boussi est au micro de Guy Maté.
Le 15 au matin, le président du bureau provisoire dira à Tshiswaka que la Cour suprême de justice venait de prendre l'arrêt, nous donnant raison au bureau provisoire que les bureaux de l'Assemblée de transition n'existaient plus depuis le 22 septembre, le jour où on a convoqué la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, et que sa décision de bloquer ces fonds restait maintenue. Mais malgré cela, le 15 au soir, M. Tshiswaka est passé outre les instructions du président provisoire. Il a libéré ces fonds aux membres du cabinet sortant, contrairement à la décision qu'il avait reçue par écrit et verbalement. C'est alors que le 16, le président a pris une décision de le suspendre et de lui coller une demande d'explication. Sur le plan administratif, c'était un refus d'ordre qui frise la désobéissance. Nous avons déjà écrit au ministre de la Fonction publique pour qu'il prenne les décisions appropriées à son sujet.
30 novembre 2006, la mission de l'EUFOR, force de l'Union européenne en RDC, prenait fin. Presque 10 jours après cette expiration du mandat, qu'en est-il actuellement du déploiement des troupes de cette mission à Kinshasa? Radio Okapi est allé à l'aéroport de Ndolo où EUFOR avait installé son quartier général. Jacques-Yves Molima s'est promené sur cette base. Il s'est rendu compte que le déménagement est réellement en cours. Suivez son reportage.
Si on avait construit une ville de 2500 personnes et que du jour au lendemain, il faut l'emballer, la déplacer.
Il faut près de 3 à 5 semaines pour acheminer au moins 100 000 tonnes de matériel par air et mer. Sur place, à la base d'Indolo, la partie nord est presque vide. Une grande partie du charroi automobile de la force européenne, les gros et petits véhicules ainsi que les conteneurs ont déjà pris la route de Matadi et Boma dans le Bas-Congo. Dans la partie est de l'aéroport d'Indolo, où se trouvait la flotte et l'arsenal militaire, il n'y a plus grand-chose.
Tout le matériel militaire, les véhicules blindés, une très grande partie est déjà partie. Le drone, les petits avions pour faire la reconnaissance, ils ont été démontés, mis en caisse. Le 2 décembre, ils sont déjà partis. Les hélicoptères, il se passe à peu près la même chose, ils sont partis.
Du côté où étaient logés les milliers de militaires de l'effort, le temps est au démantèlement des tentes. Une centaine de techniciens y travaillent d'arrache-pied. Pour les militaires qui rentrent, la satisfaction des travaux bien faits est visible.
Très content de partir, de rentrer à la maison, parce que ça fait entre 5 à 6 mois que nous ne sommes pas rentrés chez nous. Mais il y a beaucoup de travail encore à faire et on a assez heureux de le faire.
À noter que jusqu'alors, juste un petit dispositif reste en place pour toute éventualité. La force européenne s'en va et laisse derrière elle une base aérienne bien aménagée.
À l'étranger, la grande actualité, c'est la mort de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet. Il est décédé hier dimanche à Santiago à 91 ans et son décès est survenu le jour de la célébration des droits de l'homme. Sa mort tourne une page noire de l'histoire du Chili auquel il a imposé l'un des régimes militaires les plus répressifs d'Amérique latine. Augusto Pinochet est donc décédé hier à 14h15 heure locale à l'hôpital militaire de la capitale chilienne où il avait été hospitalisé la semaine dernière après avoir été victime d'un infarctus du myocarde et d'un œdème pulmonaire.